Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France.
RTL.
Mama, Ivy Juga, Maradona.
Linda de Souza, qui va nous parler d'un footballeur merveilleux.
Maradona. Allez, l'ambiance Madonna, hein, d'accord, ok, on y va.
On y va, allez.
Chavez, le président vénézuélien anti-Bush, avait hier sa botte secrète. Des crampondeurs en retraite, ceux de Diego Maradona.
Etiemos sa bouche.
Virons Bush.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Maradona, génie et démon, monument de l'histoire du foot auquel le journal L'Équipe consacre un magnifique hors-série en partenariat.
Donc on parle pas de Madonna
RTL,
alors.
Non, mais
j'avais préparé la Corée.
C'est l'absus de Linda de Souza. Il va nous faire la soirée quand même. Bonsoir Pierre-Étienne Minondio.
Bonsoir.
Vous allez bien?
Bienvenue. Ouais, très bien, merci.
Journaliste à L'Équipe. Vous étiez déjà venu dans l'émission parler des pires ratés du foot, c'est ça?
Exact.
Si on se souvient bien. Et vous signez donc l'un des papiers de ce hors-série. On l'a entendu, il y a des chanteurs, il y a des artistes du monde entier qui sont encore aujourd'hui inspirés par Maradona alors qu'il a pris sa retraite il y a 20 ans. Comment vous l'expliquez ?
C'est vrai que c'est assez fascinant. Je pense que c'est le footballeur qui a suscité le plus d'œuvres. Et comme vous l'avez dit, ça continue encore aujourd'hui. C'est un phénomène qui est assez fascinant et qui, je pense, toute proportion gardée, c'est un peu comme Mohamed Ali, c'est-à-dire ce que voient les artistes en lui, c'est quelque chose qui dépasse le sport. Mmh. C'est-à-dire que le fait qu'il ait des fêlures, le fait que voilà, il y a eu énormément d'excès dans sa vie, ça inspire beaucoup d'artistes. Voilà, il y a un peu grandeur et décadence dans son existence.
Et alors, c'est quoi ? On va pas faire toute la liste, mais par exemple, les œuvres créées autour de Maradona.
Alors, par exemple, très récemment, il y a eu une peinture murale gigantesque qui a été faite à Naples. Il y a eu une sorte de one-man show qui a été créé en Italie en son honneur, auquel lui-même a participé. Et en fait, ça s'arrête jamais. Il y a des pièces de théâtre en Argentine et il y a un nombre de chansons qui est considérable. Moi, j'avais fait un ouvrage qui essayait de recenser toutes les chansons qui ont été écrites sur les joueurs de foot et c'est de loin le footballeur pour lequel, à travers le monde, il y a eu le plus de chansons écrites, quoi.
Bah, par exemple, Manu Chao qui écrit cette chanson qui lui rend hommage. Si yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona. La vida tombola de Manu Chao. Qu'est-ce que ça raconte de la vie de Maradona, cette chanson?
C'est une chanson qui montre bien, voilà, l'aspect un petit peu hasardeux de son existence, dans le sens où il a connu des très hauts, des très bas. C'est un peu, voilà, c'est un peu comme on joue à la tombola, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Maradona, qui a vraiment tout connu. Et cette chanson est très poignante et on la voit qu'il l'interprète dans le film que Kusturica a consacré à Maradona. Et c'est une séquence absolument incroyable.
On va raconter, bien sûr, sa face sombre, la face cachée de Maradona. Mais si vous deviez nous faire une sorte de petit résumé de ses dérives, c'est quoi Maradona ?
Alors c'est assez divers. Déjà, il a eu pour un sportif, il a eu deux contrôles antidopage positifs, hein. L'un à la cocaïne et l'autre à l'éphédrine. Ensuite, sur la fin de sa vie, on a une image de lui assez bouffi. Dans les années 2000, ça a pris des proportions complètement délirantes parce qu'il s'est fait poser un anneau gastrique en 2005 et il a fait deux attaques où il a failli d'ailleurs décéder. Hein. Donc, il y a eu des dérives assez fortes. Et puis après, il y a d'autres formes de dérives parce que, par exemple, quand il était joueur, il était proche sans doute de la mafia napolitaine et puis il a eu des problèmes avec le fisc. Enfin voilà, il y a tout un tas de soucis dans son existence.
Et on en reparlera évidemment tout à l'heure, mais on va aussi raconter le génie Maradona, parce que c'est pour ça qu'il y a ce hors-série de L'Équipe en partenariat avec RTL. Diego Armando Maradona, c'est d'abord une enfance pauvre. Où passe-t-il son enfance?
Donc c'est Vira Fiorito, c'est un quartier qui est très très pauvre au sud de Buenos Aires, et bon, c'est vraiment un bidonville. Et après, il est très fort, très jeune. Voilà, c'est très très fort. Et très vite, on se rend compte qu'il a un talent exceptionnel. Donc, il joue pour un club qui s'appelle Argentinos Juniors. Et dès l'âge de 10 ou 12 ans, en fait, il y a déjà des gros articles qui sont écrits sur lui, on sait que ça va être un phénomène exceptionnel.
Oui, parce qu'à la mi-temps des matchs, il faut imaginer, des matchs de première division argentine, qu'est-ce qu'il fait le tout petit Maradona? Il a 10 ans, qu'est-ce qu'il propose au public?
Eh ben, c'est raconté dans un des papiers du hors-série, effectivement, c'est incroyable. Il fait des concours de jongle, où il montre une telle dextérité qu'en fait, le public est complètement euphorique et demande qu'il reste. C'est-à-dire, même quand l'équipe revient en début de seconde mi-temps, le public dit non, on veut pas le match, on veut le voir jongler. Quoi.
Qu'il reste.
Ce génie précoce, Maradona, il provoque aussi de la jalousie. Comment ça se passe ces matchs par exemple?
En fait voilà, faut voir que dès 10-12 ans, il est déjà considéré comme un phénomène, il a une énorme médiatisation et en fait jusqu'à ses débuts professionnels à l'âge de 15-16 ans, en fait il va connaître une période qui n'est pas simple parce qu'effectivement il y a énormément de jalousie quoi. Donc et il y a aussi une forme presque de racisme social, c'est-à-dire que quand il va jouer contre des équipes plus huppées, on le traite de négrito parce qu'il a le teint un peu mat et on dit bon voilà, en gros il vient des quartiers pauvres et on se moque de ses origines et c'est assez violent. Et donc dès cette époque, il doit se faire une carapace finalement pour ne pas se laisser déborder par ses provocations.
Mais c'est le public ça ou c'est les autres joueurs, les entraîneurs, les familles, les parents?
Ouais, c'est exactement ça, c'est tout l'entourage, effectivement, c'est ses adversaires et puis effectivement tout l'entourage qui veut essayer déjà de le faire un peu dégoupiller quoi.
Et c'est à cette époque, hein, dans ces années d'adolescence où son talent éclate, qu'il va gagner son surnom, j'imagine, le El Pibe de Oro. Alors je parle pas espagnol, ça veut dire quoi? Ça veut dire le gamin en or?
Exactement. Et c'est dès cette époque en fait. D'ailleurs, c'est un cas assez rare parce que souvent, et on le voit bien aujourd'hui, les joueurs dont on dit à cet âge-là qu'ils sont exceptionnels, ils le sont jamais en fait. Et lui, c'est vraiment le contre-exemple, c'est-à-dire qu'il a su assumer cette pression. Et d'ailleurs, c'est sans doute ce qu'il a fait le plus fort dans sa carrière, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des attentes qui étaient absolument délirantes autour de lui, dès son plus jeune âge, il les a toujours assumées.
Et il a aussi assumé finalement la responsabilité d'une famille, parce que c'est ce talent ballon au pied qui va permettre à sa famille de sortir des bidonvilles, de sortir de la misère. Maradona, c'est le joueur qui va ensuite mener l'Argentine au sommet, championne du monde 86. On va vous raconter notamment ce match où la main de Dieu l'a beaucoup aidé. À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Il a mis fin à sa carrière il y a 20 ans et une décennie plus tôt, en pleine gloire, il menait l'Argentine et le football club de Naples au sommet du football mondial. On vous raconte l'histoire de Maradona avec Pierre-Étienne Minondio, journaliste à l'équipe qui publie un hors-série consacré au génie argentin et c'est un partenariat avec RTL. Pierre-Étienne, on va raconter maintenant la Coupe du Monde 1986, celle qui va permettre à Maradona de réaliser un rêve qu'il avait, le rêve qu'il avait annoncé à la télé argentine. On est en 1971. Quel âge a Maradona et qu'est-ce qu'il dit?
Alors, je crois qu'il a 12 ans et effectivement, il dit, je crois, la formule exacte, c'est j'ai deux rêves. Je veux participer à la Coupe du Monde avec l'Argentine et je veux remporter la Coupe du Monde. Et effectivement, pour lui, c'était très fort parce que, en fait, il avait failli la remporter en 78, où c'était déjà un jeune prodige. Et à l'époque, le sélectionneur argentin ne l'avait pas gardé parce que, justement, il était tellement fort que peut-être il pouvait déséquilibrer l'équipe, tout. Et donc il y avait une frustration.
Il n'était pas sélectionné.
Il n'a pas été sélectionné alors qu'il avait fait sa première sélection un an avant. Donc il aurait tout à fait pu être sélectionné. Et ensuite il y a eu la Coupe du Monde 82 qui s'est mal placée. Et il faut aussi se remettre aussi dans l'état d'esprit de l'époque où la Coupe du Monde, c'est vraiment à l'époque ce qu'il y a de plus important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la Ligue des Champions, mais à l'époque, ce qui est le juge de paix des très grands joueurs, c'est la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Donc 78, il n'y était pas, 82, c'était pas si bien passé que ça pour l'Argentine, donc 86, pour lui, c'était, il devait porter son équipe à la victoire.
Alors on va raconter cette Coupe du Monde 86, elle se déroule où et qui sont les favoris?
Donc ça se déroule au Mexique, c'est la deuxième fois après 1970 et les favoris, il y avait la France, hein, on était champion d'Europe à l'époque, en 84. Il y avait l'Allemagne, qui est toujours une équipe difficile à bouger, qui était finaliste de la Coupe du Monde 4 ans auparavant, l'Italie championne du monde et surtout le Brésil de Tele Santana qui avait une équipe exceptionnelle, à la fois efficace et splendide à avoir joué. L'équipe d'Argentine à l'époque n'est pas forcément parmi les top favorite parce que autour de Maradona, j'exagère un peu, mais c'est un peu le désert quand même.
Et en quart de finale, l'Argentine rencontre l'Angleterre. C'est un des matchs les plus dingues de l'histoire de la Coupe du Monde. Il faut d'abord poser le contexte politique. Il est particulier.
Effectivement, donc, parce qu'on est en 86, en 82, il y a eu la guerre des Malouines. Mmh. Donc c'est un conflit qui porte sur un archipel qui se situe dans l'Atlantique Sud, dont l'Argentine et l'Angleterre, le Royaume-Uni se disputent en fait la propriété. Et en fait, il y a eu un conflit qui était assez violent. Il y a eu plus de 600 morts chez les militaires argentins. Donc c'était
avec un sentiment d'humiliation de la part des
Argentins. Voilà, puisque finalement le Royaume-Uni a gardé ses îles, mmh. même si l'Argentine continue de contester. Bon, et donc pour les Argentins, c'était une humiliation. Et clairement, ce match devait être l'occasion de venger cette humiliation.
Et Maradona va montrer toutes les facettes de son talent. Alors d'abord le côté truqueur avec ce but. On vous l'a mis en version originale.
Here's Maradona and England have contained him pretty well so far. Looking dangerous, Maradona with Shilton. Looked like handball that. Maradona celebrating and the goal's going to be given. Shilton furious and so is Peter Reid and the England manager Bobby Robson can't believe it.
Donc ça, c'est le commentateur anglais qui est vraiment pas content parce que ce but, il a été marqué très clairement de la main. On peut pas avoir le moindre doute quand on voit les images. Qu'est-ce qu'il dira Maradona après le match ?
Alors récemment, il y a un bouquin qui a été publié qui a dit qu'en fait, il n'avait pas dit que c'était la main de Dieu. C'est-à-dire que c'est un journaliste Argentin visiblement qui lui a dit mais alors c'est la main de Dieu et lui a dit ça se pourrait. Enfin, bon. Mais bon, en gros d'accord. C'est l'expression qui est restée dans l'imaginaire qui est restée, ouais. collectif qui était un moyen de se dédouaner de ça.
Oui.
Mais effectivement c'est totalement volontaire et en plus ce qu'il fait après avoir marqué de la main c'est que très vite il va célébrer et il dit aux joueurs venez avec moi célébrer comme ça l'arbitre pourra pas revenir sur sa décision quoi.
Et parce qu'on est d'accord pour les novices ou les néophytes on marque pas un but avec la main.
Exactement c'est de la triche. Alors mais ça vaut le coup de le préciser. Ouais. Effectivement voilà. le geste il est
et vraiment énorme. Sidonie vraiment... dont le papa a été professionnel.
Non mais je pense à nos auditeurs qui sont pas spécialistes de football.
Exactement.
Non, mais c'est bien. Non, c'est
il faut, c'était il faut vraiment tout. Une tricherie.
Il faut aller total. Très loin.
Et donc on lui a accordé.
On lui a accordé parce que voilà et on se souvient par exemple en France même en France ça avait fait scandale. Hein. Thierry Roland avait commenté. Et donc avait accusé l'arbitre qui était monsieur Benasseur, un Tunisien, de pas être compétent. Enfin voilà, c'était un scandale mondial ce but.
Et puis alors quelques minutes plus tard, là c'est le génie qui s'exprime. Il marque Maradona l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde. Pouvez-nous le décrire ? C'est quoi ? C'est un slalom ?
C'est exactement ça. C'est un slalom, je crois, sur 52 mètres où il dribble en gros 6 joueurs anglais. Et il les prend de vitesse, il les évite et après il se retrouve face au gardien. Et là on pense qu'il va peut-être la remettre à un joueur Valdano qui était très bien placé. Et non, il marque tout seul. En fait c'est un but qu'il crée tout seul, qui est absolument fantastique. Et comme vous l'avez dit, c'est incroyable, c'est en 3 minutes en fait. En 3 minutes il fait le pire et le meilleur. Et c'est tout le génie de Maradona résumé en un match, c'est assez exceptionnel.
Et ce match, le chanteur Benjamin Biolay en a fait une chanson où l'on retrouve le commentaire du journaliste argentin Victor Hugo Morales. Cette chanson,
je crois que c'est la tienne. Borges Football Club. Et alors, il me semble qu'il est en fait donc le commentateur qu'on entend, Victor Hugo Morales. Alors je crois qu'il est uruguayen, mais effectivement c'est une star. C'est un petit détail, mais c'est une star en Argentine. Et effectivement, il est les commentaires qu'il fait sur son match sont exceptionnels. C'est-à-dire qu'il pète littéralement les plombs, quoi. Et donc je crois
qu'il le surnomme.
Je crois qu'il dit que c'est le cerf-volant magique ou je sais pas quoi.
cosmique.
Pardon. Effectivement. Non, mais c'est vraiment incroyable. À écouter en direct, c'est complètement fou. Mais c'est vrai quand on voit l'action, en fait, elle part du milieu de terrain. On pense pas du tout qu'il peut aller au bout, quoi. C'est vraiment exceptionnel.
Vous avez interviewé pour ce hors-série de l'équipe Biarritz et Minondio Benjamin Biolay, le chanteur. Pourquoi il avait envie d'écrire une chanson sur ce match ?
Bah en fait, lui, ce qu'il voulait faire, c'était à la fois rendre hommage au génie de Maradona, rendre hommage à Victor Hugo Morales, qui est en fait une sorte de figure assez reconnue en Argentine. Je me souviens, une fois, on a fait un article sur lui dans l'équipe, on disait que c'était un mix entre Eugène Saccomanno, Yves Calvi et Evrugeri. Voilà.
Que des belles références.
Voilà, en gros, c'est oui. une personnalité qui est hyper connue en Argentine. Et par ailleurs, c'était aussi rendre hommage à la passion qui entoure le football en Argentine, parce que Benjamin Biolay vit plusieurs mois par an en Argentine, et lui-même étant fan de foot, il voit les délires collectifs que ça suscite. Quoi.
Maradona qui suscite aussi des délires collectifs dans une ville, Naples. Il y est devenu une icône. Il y a aussi perdu la santé à cause de la cocaïne.
Vous écoutez RTL.
On a vu un Maradona à la fois génial, talentueux, puis aussi malin, parce que le premier but, c'était pas vraiment marqué dans les règles de l'art.
Quelque chose d'un peu de l'ordre du divin ou de l'irrationnel dans le lien qu'il y a avec Maradona, qui est finalement un fils extrait du peuple, extrait des limbes, un peu comme le Christ né dans une étable, c'est un peu la même chose.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vincent Duluc, mais aussi Michel Platini qui parle de Diego Maradona, le gamin des bidonvilles de Buenos Aires, qui est devenu, donc, on l'a raconté, champion du monde avec l'Argentine, génie du foot et aussi un homme excessif dont la chute sera spectaculaire. L'équipe lui consacre d'ailleurs un hors-série, c'est en partenariat avec RTL. Et c'est le journaliste Pierre-Étienne Minanzio, pardon, qui nous raconte. Alors, vous publiez ce hors-série pour marquer un anniversaire, l'anniversaire d'un exploit qui n'avait jamais eu lieu avant. On est jour pour jour, hein, il y a 30 ans. C'est Naples.
Exactement. Donc,
qu'est-ce qui se passe à Naples ?
Le 10 mai 1987. Mm-hmm. Et en fait, ce jour-là, Naples a fait match nul un partout contre la Fiorentina. Et en fait, ce match nul leur permet de devenir champion d'Italie. Et en fait, c'est vraiment une performance exceptionnelle parce que jusque-là, en fait, dans toute l'histoire du championnat de foot italien, jamais un club du sud de l'Italie n'avait gagné. C'était que des clubs. C'est-à-dire que même.
Du nord,
mais vraiment du nord. C'est-à-dire Milan, ouais. Turin essentiellement. C'est-à-dire qu'il y avait eu que deux équipes romaines et il y avait eu aussi Calgary qui avait gagné une fois, mais autrement jamais le sud de l'Italie n'avait été mis en avant, donc c'était vraiment une performance exceptionnelle, d'autant plus que quand Maradona rejoint Naples en 84, c'est un club qui est en grande difficulté, qui est au bord de la relégation, c'est-à-dire qu'en 3 ans il est parvenu à transformer une équipe très moyenne en une équipe capable de remporter le championnat qui à l'époque est le plus relevé du monde.
Ouais, et il le gagnera une nouvelle fois avec Naples 3 ans plus tard, c'est ça, en 90. C'est arrivé de nouveau depuis. Naples a déjà gagné.
Non. Quand on regarde le palmarès de Naples, il y a 3 titres majeurs. Donc il y a ces 2 titres de champion, il y a la Coupe de l'UEFA 89. Ça, et depuis, en fait, ils ont gagné des Coupes d'Italie, mais c'est beaucoup moins prestigieux. En fait, vraiment, la période dorée de Naples, c'est quand Maradona est là.
Donc la ville de Naples lui voue un culte presque religieux encore aujourd'hui ?
Oui, c'est complètement délirant. C'est complètement délirant et on a du
ça
mal.
Ça se voit sur la peau de la ville, l'amour de Naples.
J'avais cité
Naples
une fresque. Il y a une fresque gigantesque. Mais
ah
là,
oui,
récemment,
on la voit en photo. Pardon, je vous interromps dans le hors-série de l'équipe. C'est un mur entier d'un immeuble de Naples. Quoi.
Exactement. Mais récemment, il y a quelques mois, il était venu justement participer à une pièce de théâtre à Naples et en fait, à chaque fois qu'il vient, ça suscite des sortes de délires collectifs. Quoi.
Et quand il arrive à Naples, alors on fait un petit moment le temps. On est le 5 juillet 1984. Il faut raconter là aussi dans quelles conditions il est accueilli.
Ouais, c'est complètement fou. C'est des négociations qui sont très longues parce qu'il jouait à l'époque à Barcelone et ça dure plus d'un mois. Et à un moment, on pense que ça va pas se faire. Et ce qui est incroyable, c'est que quand il y a une déclaration de Barcelone qui dit ben, on arrête les négociations avec Naples, parce que forcément c'est toujours un peu du bluff ce genre de négociation, ben, nous on arrête, c'est ce qu'ils disent, et ben il y a des émeutes à Naples. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient tellement persuadés que le Messi allait venir que, par exemple, je crois qu'il y avait un consulat espagnol à Naples qui a été pris d'assaut. Enfin, c'était complètement délirant. C'est-à-dire qu'il y a eu des émeutes urbaines, quoi. C'est-à-dire que ça devait se faire, quoi.
Et quand il est présenté au public au tifosi du football club de Naples, ça se passe où et comment ?
Alors, je crois que j'ai le souvenir, par exemple, que quand il fait son premier entraînement, je crois que c'est pratiquement devant 60 000 personnes. Ça. Enfin, voilà. C'est complètement fou, quoi. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de revanche en parlant de l'Argentine et de la guerre des Malouines. Là, c'était pareil. C'est-à-dire que Maradona, il devait à lui seul permettre à Naples de vivre une revanche, c'est-à-dire ce club qui, chaque fois qu'il allait jouer dans le reste de l'Italie, on se moquait d'eux, on les traitait de paysans, de moins que rien. C'est-à-dire que et Naples était une ville qui avait souffert encore récemment, je crois, d'une épidémie de choléra, d'un tremblement de terre, qui était dans vraiment une pauvreté terrible. Et ben lui seul avait la responsabilité, à travers le football, de donner une revanche à cette ville. C'est complètement fou.
Mais il y a une ombre dans toute cette joie et cette effervescence. C'est l'ombre de la mafia qui pèse sur ce transfert.
Oui, parce que le transfert à l'époque, il est, je crois, de 79 millions de francs, ce qui équivaut à 26 millions d'euros actuels. C'est une somme gigantesque
pour l'époque. C'est un record pour, pour l'époque. Hein.
Bon, alors, ça n'a rien à voir avec, évidemment, les sommes actuelles. Hein. Paul Pogba, par exemple, c'était plus de 100 millions d'euros aujourd'hui. Mmh. Donc, ça n'a rien à voir, mais à l'époque, c'est énorme. Et donc, justement, il y a un article qui parle de ce transfert dans leur série et qui pose la question, mais comment c'est possible que Naples, qui n'était pas non plus le club le plus riche d'Italie, puisse se payer ce transfert? Et il y a quelqu'un qui dit, mais à Naples, quand on frappe à la bonne porte, on peut toujours trouver de l'argent.
Et Maradona, il avait de mauvaises fréquentations à Naples?
Oui, alors je crois que ça s'est détérioré peu à peu, quoi. C'est-à-dire que Maradona, il avait notamment commencé à prendre de la cocaïne quand il était à Barcelone, mais de manière un peu, j'allais dire entre guillemets, divertissante, ouais. Festive.
Ça peut être.
Bon, voilà. Et après, c'est devenu une consommation qui était assez prononcée au fil des années. Et puis, forcément, après, il y a eu des liens avec la pègre. C'est-à-dire, par exemple, on lui offrait de la drogue. Donc, forcément, après, il était redevable. Il a subi aussi des cambriolages. Par exemple, il avait reçu un ballon d'or qui célébrait le fait qu'il soit meilleur joueur de la Coupe du Monde 86. C'était un petit ballon d'or. Et il a été volé. Et après, lui, il a été obligé de se tourner vers la pègre pour dire, j'aimerais bien récupérer parce que c'est un trophée auquel je tiens. Donc, en fait... Voilà, à partir du moment où il était là-bas, il s'en sortait plus, quoi.
Mais pour bien prendre conscience de la folie qui règne à Naples pendant ces années Maradona, ça dure 7 ans, c'est ça, à peu près?
Ouais. De 84 à 91.
Il y a une anecdote qui est racontée dans le hors-série de l'équipe, c'est un jour où Maradona, ça arrive à tout le monde, il doit aller chez le dentiste. C'est simple.
Oui, c'est...
Sauf pour Maradona, racontez-nous.
Extraordinaire, ouais, en fait... Chacune de ces sorties suscitait effectivement une effervescence complètement folle. Par exemple, on dit que quand il allait boire un café, il le faisait plus du tout à la fin, mais au début, il essayait. Donc, en fait, la personne qui tenait le café devait fermer les stores. Et après, sinon c'était l'émeute. Et puis après, tout le monde voulait prendre un café au même endroit où il était assis. Et donc, pour cette histoire de dentiste, en fait, il avait dû y aller la nuit parce que c'était le seul moment où il espérait croiser personne. Et finalement... Un gamin l'avait vu aller chez le dentiste et il y avait des centaines de personnes qui l'attendaient à la sortie du dentiste. Quoi.
Alors à la fin des années 80, Maradona a failli rejoindre un club français, l'Olympique de Marseille. Bernard Tapie, est-ce qu'il y a vraiment cru ?
C'est une histoire un peu compliquée. Au départ, il n'y croyait pas, Tapie, et il avait envoyé Michel Hidalgo, donc était un ancien entraîneur de l'équipe de France, qui était devenu directeur sportif de l'OM. Et donc Hidalgo l'a rencontré. Alors, c'est extraordinaire parce que Hidalgo, c'est quelqu'un de fondamentalement gentil et qui s'est retrouvé dans une tornade qu'il ne contrôlait pas du tout. Donc le récit par Hidalgo de la rencontre avec Maradona, qui tout d'un coup interrompt la conversation parce que c'était chez lui, c'était chez Maradona à Naples. Il dit, faut que je te montre quelque chose, et il descend et il montre une Ferrari, puis une deuxième, puis une troisième, puis ils reprennent la discussion. Et donc en gros, après, Tapie reprend le dossier et voilà, il y a plein d'anecdotes un peu folk. Par exemple, Maradona regarde la montre de Bernard Tapie pendant qu'il parle, et Bernard Tapie lui dit, tiens, c'est pour toi.
Donc il a perdu sa montre, mais il n'a jamais eu Maradona dans son club.
Il
n'a
jamais eu Maradona. Les négociations sont assez
c'est
loin,
pas facile.
Le président napolitain de l'époque savait qu'en gros, s'il laissait partir Maradona, par rapport aux puissances un peu occultes qu'on évoquait tout à l'heure, il se retrouvait en sérieuse difficulté.
Bon, on en a un peu parlé, mais on va forcément devoir aussi développer la face un peu plus sombre du génie Maradona, cette cocaïne qui va le détruire lentement mais sûrement. À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
La curiosité, c'est du lundi au jeudi, de 20h à 22h sur RTL. Et ce soir, on découvre un destin comme on les aime, un destin hors norme qui méritait bien un numéro hors série de l'équipe en partenariat avec RTL, le destin de Diego Maradona. Pierre-Étienne Minondio, on racontait les années napolitaines de Maradona, deux titres de champion en 87 et en 90, et puis un exploit jamais réalisé avant et jamais réédité après le départ du génie argentin. Mais cette période, elle a aussi détruit l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il était en mauvaise santé ? Parce qu'il a cassé sa santé ? Il a cassé sa santé de joueur aussi ?
Il y a tout un ensemble de phénomènes. Effectivement, je pense que la prise de cocaïne de plus en plus forte, évidemment, a endommagé sa santé. Et puis, il y avait aussi un aspect où il se sentait prisonnier à Naples. Hein. C'est-à-dire qu'il disait qu'il vivait dans une cage. Donc, il vivait avec sa femme, ses filles. Il ne pouvait pas sortir. Il faisait des interviews parfois à travers l'interphone. Il y a des journalistes qui sonnaient. Enfin, voilà, il était constamment dans une sorte de bulle un peu étouffante. Et on parlait tout à l'heure du transfert avorté à Marseille. Lui, il aurait vraiment voulu sortir de cet univers, en fait. Et en fait, en gros, il y avait tellement d'intérêt autour de lui que c'était impossible.
Il faisait la fête quand même, Maradona. Il accueillait des gens chez lui. Ça
effectivement,
se passait à
l'extérieur. Et comme vous le dites très bien, il y avait après lui-même en profitait aussi beaucoup. Il en profitait également. Mais quand il en parle aujourd'hui, c'est pas toujours. Quand il parle du hors sportif. À Naples, c'est pas forcément que des bons souvenirs. Donc effectivement, il faisait beaucoup la fête, mais il voyait bien que son niveau de jeu déclinait au fil des années, quoi.
Alors c'est pas pour lui chercher des excuses, mais Maradona, c'est aussi un joueur qui a pris des coups, beaucoup de coups, parce qu'il était tellement doué, très petit, 1m60, donc très difficile à arrêter, qu'il a pu peut-être aussi prendre de la cocaïne pour masquer la douleur. Est-ce que quand je dis ça, je suis à côté de la plaque?
C'est peut-être une des pistes. Effectivement, le foot des années 80, c'était bien plus violent qu'aujourd'hui. Quand on voit les matchs de l'époque, les tacles qu'ils prenaient, c'était complètement fou, quoi.
On protégeait moins les créateurs.
Les créateurs, exactement. Ouais. Maintenant, il y a un match contre l'Italie en 82, dénommé Gentile. Aujourd'hui, le type s'acharne sur lui. Aujourd'hui, il serait exclu au bout de 2 minutes de jeu. Après, concernant la prise de drogue, mais c'est très difficile à dire. Et d'ailleurs, il y a une interview qui est publiée dans le journal où on lui pose la question pourquoi il prenait de la drogue et lui dit « je veux pas me chercher d'excuses ». On peut penser que, comme vous l'avez dit, la pression qui pesait sur lui, voilà, au bout d'un moment, il avait besoin d'un dérivatif, parce que toute sa vie, quand il était jeune, il jouait pour sa famille. Après, il a joué en gros pour l'Argentine pour gagner la Coupe du Monde. Après, il jouait pour toute la ville de Naples. En fait, il a toujours eu une pression considérable sur les épaules.
Oui, quoi. Et puis avec un sentiment de revanche aussi. C'est un moteur fort de son histoire, de sa carrière.
Alors effectivement... toujours, effectivement, lui, avec ses origines sociales très modestes, il y avait vraiment une volonté de réussir. On se moquait de lui.
On se moquait de son quartier.
De son quartier, voilà. Et c'est aussi pour ça qu'à partir du moment où il gagne, à partir de 86, où il gagne la Coupe du Monde, et de 87, où il gagne finalement le Calcio, il a eu sa revanche d'une certaine manière. Et après, il doit chercher ailleurs des sources de motivation et ça devient un peu plus compliqué.
Platini qui dit que Maradona n'est pas le meilleur joueur de l'histoire, c'est parce qu'il a pris de la cocaïne.
En fait, il comparait, on lui demandait de choisir entre Pelé et Maradona, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors après, Platini est toujours exceptionnel quand il s'agit de parler d'autres joueurs, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il fait toujours plus ou moins des compliments qui, en fait, ne sont pas du tout des compliments.
Ah oui, parce que c'était lui le meilleur joueur du monde.
Oui, en fait, en partie, par exemple, je me souviens qu'une fois à Canal+, il avait été interrogé parce que Trezeguet avait battu le nombre de records que Platini avait marqué avec la Juventus de Turin. Michel, une réaction. Ouais, c'est bien. C'est bien pour un attaquant, mais moi j'étais pas attaquant, mais c'est bien. Enfin, il trouve toujours un truc pour dire. Et donc, effectivement, il sous-entend que, en fait, pour les gros matchs, Maradona était peut-être dopé, et que lui, voilà, et qu'il préfère par exemple Pelé, dont on peut penser qu'il était bien plus propre. Quoi.
Alors, la cocaïne qui fera tomber Maradona de son Olympe, d'abord en 91, qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là?
Bah, en fait, c'est un peu mystérieux parce que la manière, ce qu'on sait, c'est qu'il prenait régulièrement de la cocaïne, mais il essayait de pas en prendre quand même, évidemment, les jours de match. Mais en fait, il aurait dû se faire avoir bien plus tôt, se faire prendre bien plus tôt. Et pourquoi il se fait prendre à ce moment-là, c'est un peu étrange. Et en plus, la manière dont se fait...
Il joue encore à Naples. Hein.
Oui, il joue encore à Naples, effectivement. Et la manière dont se fait le contrôle antidopage est très bizarre parce qu'on n'envoie pas tout de suite ses urines au comité national olympique italien. Donc, il y a des irrégularités. Et on pense que peut-être que, comme il était moins fort, des forces occultes. non, mais en gros, peut-être que la mafia avait intérêt à ce qu'il parte désormais parce que...
La main du diable ?
Non, bon, après, c'est ce que lui dit aussi. Mais, parce qu'en fait,
c'est
le
intéressant
vrai
parce qu'il génère tout ça aussi.
Voilà. Et le vrai mystère, c'est pourquoi il s'est pas fait prendre avant, sachant que lui dit toujours que pour les grosses compétitions, il était un peu plus propre, notamment la Coupe du Monde 86, il dit qu'il l'a fait de manière propre.
Il fait quoi aujourd'hui, Diego Maradona ? Il fait Maradona, c'est
oui,
ça?
Oui, il fait Maradona. Il y a une manière positive de voir les choses, c'est qu'il a été tellement mal au cours des années 2000 où il pesait 250 kilos, il a failli mourir et que tout le monde est heureux de le voir à peu près en bonne santé. Après, ce qu'il a, où il a été plutôt bien, ce qu'il a été sélectionneur de l'équipe d'Argentine entre 2008 et 2010, donc ça, c'est quand même. Bon, ça s'est plus ou moins bien passé, mais on était quand même content de voir un tel champion à ce poste-là. Aujourd'hui, c'est un peu plus pathétique, malheureusement, parce que je crois qu'il a pris un club de D2, me semble-t-il, en Arabie Saoudite. Et maintenant, il a besoin d'argent, en fait. C'est une des grosses frustrations de Maradona, je pense, c'est le fait qu'on le compare beaucoup à Messi. Enfin, Messi est comparé à lui. Et Messi, il gagne plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Et Maradona, il doit une somme faramineuse au fisc italien. En fait, Maradona, il a besoin d'argent, fondamentalement. Et il a la sensation que. Il est une frustration terrible de pas avoir vraiment réussi, d'être encore en difficulté après toutes ces années. Ça, c'est terrible à vivre pour lui. Et l'autre aspect qui est un peu plus triste et dont parle pas mal Benjamin Biolay dans l'entretien, c'est que comme c'est une star un peu people, enfin le moindre de ses faits divers est partout traqué. Il est traqué en Argentine. Et récemment, malheureusement, c'est terrible. Il avait un peu porté atteinte à sa compagne, disons. Il y a une vidéo qui a été faite de ça, et depuis, même en Argentine, en fait, il commence à être un peu haï parce que la cause féministe, à juste titre, est très défendue là-bas.
Merci beaucoup, Pierre-Étienne Mignondio. Le hors-série L'équipe consacrée à Maradona est en kiosque. C'est en partenariat avec RTL. À bientôt, au micro de la curiosité.
Merci pour votre invitation.
À bientôt, ça aurait été un bon thème pour l'équipe vintage. Ça donne des idées peut-être pour la saison prochaine.
Votre émission sur l'équipe TV.
Sur l'équipe, oui.
Vous écoutez RTL.